Et Vlan, c'est pas drôle, mais c'était très drôle. À la descente du bus ce matin, un homme, costume cravate, chaussures de ville, très sérieux, verglas, glissade et zou, les quatre fers en l'air. Il a ri, ouf, même pas mal. Mais c'est vrai, ça glisse, ça dérape, ça verglace, c'est la banquise à Paris, disent les Marseillais. Bref, c'est l'hiver et ça se voit, la Tour Eiffel sous la neige, cette saison, mais c'est dans tous les journaux ou presque, une belle image de frimas. Pourquoi le froid va durer, titre le journal Le Parisien. 3 pages pour nous expliquer que... c'est l'hiver. À la télé aussi, la météo s'invite dans les journaux entre Gaza et la crise pour compter les flocons de Bruxelles à Budapest, de Grenoble à Toulouse. L'âge de glace, dit la dame, spécialiste des dépressions et autres anticyclones. Route bloquée, quart de ramassage scolaire supprimé, train retardé, vol aérien annulé. La routine hivernale en quelque sorte, mais un événement pour tout Français moyen, habitué au climat tempéré et fort passionné par la conversation sur la pluie et le beau temps. Et vous trouverez toujours quelqu'un pour vous jurer qu'il n'a jamais fait aussi froid. C'est faux, mais notre mémoire météorologique est souvent trompeuse et la sagesse populaire, rarement une science exacte, qui préfère défier la logique et faire rimer Noël au balcon avec Pâques au tison plutôt que Noël en hiver et juillet en été. Ça ne rime pas ? Et alors ?
Culture vive, Pascal Paradis.
Le cadre dans lequel se passe l'action de un barrage contre le Pacifique n'est nullement imaginaire. Il s'agit très précisément d'une ex-colonie française des environs de 1925-30. C'était la grande époque. La mise en culture de la colonie battait son plein. L'administration locale distribuait à des particuliers des territoires inoccupés, encore en friche, des concessions, sous condition de leur mise en valeur dans un délai donné. Mais que se passait-il en fait ? En fait, les concessions fertiles faisait l'objet d'un véritable marché, et seules les mauvaises étaient accordées réglementairement, et pour cause, elles étaient impropres à toute culture.
En 1950, Marguerite Duras publie Un barrage contre le Pacifique, un roman en partie autobiographique sur son enfance en Indochine, le combat de sa mère contre l'administration et le sort réservé aux colonisés. Et c'est cette histoire-là que Ritipan a décidé d'adapter au cinéma. Bonjour Ritipan.
Bonjour.
Tous vos derniers films étaient des documentaires sur le Cambodge, votre pays. Je me souviens notamment et très précisément de S21, la machine de mort Khmer Rouge, qui était un film absolument essentiel. Vous revenez à la fiction en adaptant Duras. Pourquoi ce livre-là et cette histoire-là ? Parce que le Cambodge ?
Oui, parce que c'est le Cambodge, parce que c'est aussi une période d'histoire que j'ai envie de m'y pencher, c'est l'époque de colonisation. Et puis c'est aussi, parfois, il fallait pas faire autre chose avant de venir vers la fiction. La fiction, c'est un point de vue cinématographique, c'est vraiment une pure création, quoi. Donc c'est pour dire aussi, voilà, on est là, quoi. On revit, on recommence à imaginer, à rêver.
On peut raconter de belles histoires, voilà. Ou moins belles d'ailleurs, elles ne sont pas toujours très belles. Mais ce roman, Un barrage contre le Pacifique, est-ce que c'est pour vous, Ritipan, un livre d'histoire ou un livre intime avant tout ?
La chose, c'est que tout comme tous les grands œuvres, ils se mélangent entre l'histoire et le destin personnel, le destin collectif, se mélange entre l'histoire et l'histoire intime et l'histoire de grande histoire se mêlent. Et c'est, moi j'aime bien, moi, parce que dans mon travail, même le fiction et le documentaire se mélangent. C'est, je crois, c'est un des points qui nous rapproche avec Marguerite Duras, parce que Marguerite Duras part toujours des histoires qu'elle a vécues, qu'elle a ramassées pendant, collectées pendant sa jeunesse, dans sa vie. Et après, elle en fait une pure œuvre de fiction, quoi, qui a un langage à elle.
Donc vous diriez que votre film Un barrage contre le Pacifique est un film de fiction, mais aussi un documentaire?
En tout cas, basé sur une histoire vraie, vous savez, c'est très étrange, je vous raconte une histoire, parce que moi, je fais pas un film quand il n'y a pas des éléments qui me, dans la vie, qui m'attirent. La chose qui a vraiment décidé de faire ce film-là, pourtant je l'ai porté pendant des années, c'était le fait que la résia de Madame Donadieu, la résia de la femme blanche, et aujourd'hui existe.
Oui, la mère de Marguerite
Duras. La mère de Marguerite Duras, l'endroit même où elle avait sa terre, existe réellement. Et on a tourné juste à côté. Et je pense que quand on travaille et essaye un peu de creuser dans un territoire, ou sillonner un territoire, c'est un territoire de mémoire, ça devient intéressant, quoi. Parce que c'est pas les cadastres qui ont nommé cette rizière-là, c'est les paysans cambodgiens.
C'est-à-dire que presque un siècle après, les paysans cambodgiens se souviennent que là, Madame Donadieu a lutté contre les éléments, a construit un barrage et ont nommé ce polder, c'est le numéro 3, on l'apprend à la fin du film, la rizière de la Dame Blanche.
Voilà, et c'est ça que c'est un projet peut-être utopique, mais aujourd'hui, ça existe. La terre, des centaines d'hectares de terre a été redistribuée. Il y a 50 000 ou 10 000 personnes qui vivent dessus. La productivité multipliée par 3 dans cet endroit-là, ça veut dire que ce n'est pas si utopique que ça.
Donc la terre infertile de Madame Donadieu, finalement, s'avère...
Finalement, c'est grâce à la technologie actuelle, c'est un projet qui est financé par AFD, Agent français pour le développement, qui a pu assainir cette terre-là. Et effectivement, ça devient un polder où la récolte de riz est vraiment très
importante. Très important. Est-ce que c'est un film sur la mémoire? Oui, en fait, comme toujours avec vous.
Oui, j'ai lu quelque part que je suis obsédé par la mémoire. Non, je ne suis pas obsédé par la mémoire, mais j'aime quand il y a une réponse de la part des éléments, aussi bien que de... Comment vous dites... quand j'ai démarré un film, par exemple, qui est un film de fiction, le Barrage, je m'installe dans le décor pendant 3 ans avant. J'ai trouvé l'endroit, j'ai trouvé cette terre et j'ai arpenté de long en large cette terre-là pendant 3 ans. J'ai démarré 3 ans déjà le film. Et petit à petit, j'apprends son histoire. J'ai toujours fait ça. Hein. Je dis que filmer, c'est pas... Je sais qu'on peut tout faire en studio, on peut tout inventer. Et c'est ça, l'art du cinéma, c'est faire du vrai et du faux, et du faux et du en vrai, je sais pas comment. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est est-ce qu'il y a une âme dans chaque chose. Est-ce que cette maison a une âme ou pas? Chaque objet a une âme ou pas? Chaque morceau de terre a une histoire ou pas?
Et pour ça, il faut un peu de temps.
Il faut du temps.
Il faut regarder.
Il faut regarder, il faut flâner, il faut prendre son temps de s'intéresser aux autres. À quoi sert de faire des films si vous n'êtes pas proche des autres?
Cela dit, vous avez le droit, Ritipan, d'être obsédé par la mémoire, parce que vous venez d'un pays et d'une histoire, le Cambodge, où il y a eu un trou de mémoire quand même. La révolution Khmer Rouge a fait en sorte qu'on a coupé les Cambodgiens de toute leur histoire, ou presque.
Moi, je dirais que Rica avait aussi raison quand il dit j'ai le devoir de mémoire, il y a le devoir de l'oubli aussi. Donc, il faut pas être obsédé par la mémoire. Moi, je le travaille, cette mémoire, je le travaille, que c'est une responsabilité collective, il faut le faire. Puis après, il faut pouvoir aussi tourner la page et aller vers autre chose.
Cette autre chose, c'est aujourd'hui dans votre actualité, Ritipan, donc ce barrage contre le Pacifique, l'histoire d'une femme, Madame Donadieu, qui vit seule avec son fils, elle est veuve, elle vit avec son fils, sa fille, la future Duras, et qui se bat donc contre l'administration, une administration corrompue qui veut lui donner ou qui lui donne une terre qui est infertile et qui est chaque année recouverte par la marée.
Qu'est-ce que vous voulez?
Bonjour madame. Simplement vous rappeler que si après une année la totalité de la concession n'est pas remise en culture, le cadastre peut la reprendre.
C'est une menace? Je suis ruinée à cause de vous. Vous saviez très bien que ma concession était envahie par les marées de décembre. Vous le saviez, vous m'avez laissé faire.
Madame, il serait étonnant que notre gouvernement mette en lotissement des terrains impropres à la culture.
On ne contrôle pas la nature.
Ne prenez pas pour une idiote. Je sais très bien que vous vous êtes partagé mon argent. J'ai honte d'être française.
Madame, je vous en prie, faites attention à ce que vous dites. Vous nous accusez de corruption?
Mais oui, c'est de la corruption. 5 000, 8 000, 10 000 pour obtenir une concession cultivable. C'est quoi son prix?
Allez, foutez le camp! Retenez votre fils, madame! Retenez-le, sinon il n'y aura pas de solution à votre problème!
J'irai jusqu'au bout pour que vous m'accordiez une année supplémentaire! Je passerai! J'irai jusqu'au gouverneur!
Salope de canade!
Isabelle Huppert dans Un barrage contre le Pacifique avec Gaspard Ulliel dans le rôle du fils. Ces mots-là, j'ai honte d'être française, Ritipan, est-ce qu'ils sont dans le roman de Duras?
J'avoue, je m'en souviens plus. Je l'ai pris le roman, je l'ai cogité dans mon ventre, et puis après je partais. Il y a des choses qui est des pans de phrases entières de Duras, puis il y a des choses qu'on a mis en plus. Mais je pense que c'est sa colère, quoi. C'est une histoire, c'est la fin, c'est la colère, c'est comment dire, c'est on était tous partis, ces gens-là, hein, qui il y a dans la colonie, il y a des voyous aussi bien que des gens comme des madame de Donadieu, qui est la mère de madame Duras. Ce sont des gens qui étaient trompés un peu par les expositions coloniales à Paris, quoi. C'est quand on voyait des affiches, dit voilà, il y a une mission civilisatrice, les gens partaient quand même pour ça, quoi. Puis il se trouve que localement, on voit comment, à quoi sert la colonisation.
Oui, vous portez un regard assez contrasté finalement sur ces colons-là, parce qu'ils ne sont pas tous pourris, et en même temps, il y en a qui sont quand même des très méchants, pour être dans un vocabulaire assez primaire.
Oui, ils sont pas tous mais pourris, comme vous dites, mais ils en ont pas mal. Et puis, il y a comme partout, il y a des lumières comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Léon Vert. L'Indochine, c'est effroyable ce qu'il a raconté dans son livre.
Mais ce que vous racontez dans votre film, qui est un film très beau, très assez esthétique, vous racontez quand même et vous montrez des choses très violentes sur le sort réservé aux colonisés. C'est les chaînes et le fouet.
Oui, mais c'est ce qui est étrange, c'est que pendant qu'on préparait le film, il y a l'Assemblée nationale qui voulait voter une loi pour dire qu'il y a les effets positifs de la colonisation. Bon, faut pas nous faire pousser trop loin, quoi. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours des personnes exceptionnelles comme la mère dans le film, qui sont pas allées au Cambodge seulement pour éduquer des indigènes, hein, qui sont là aussi pour faire des richesses, mais simplement il a envie que les autres aussi en gagnent. Les autres aussi puissent en vivre avec cette terre, quoi. Puissent vivre avec cette terre. Voilà, c'est. Mais en fait, le projet de colonisation, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'on construit une route pour que les Africains ou les Indochinois marchent bien? Non, on construit une route pour toujours piquer la richesse d'un pays. Et le problème, aujourd'hui, reste à peu près pareil, mais sous une autre forme.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quand vous allez en Inde, en Brésil ou au Cambodge, il y a pas mal de pays qui ont de l'argent, qui sont plus peut-être pas les mêmes qu'il y a 100 ans, qui prennent des centaines d'hectares de terre pour faire une sorte de ferme pour nourriture, quoi. Mais seulement on ferme pour les faire des biocarburants. Et bon, les paysans, ils sont dépossédés de leur racine, de leur terre.
En décidant de faire ce film, Un barrage contre le Pacifique, Ritipan, est-ce que vous avez voulu aussi faire un peu l'histoire, re-raconter l'histoire et re-raconter ça, justement, que la colonisation en Indochine a été particulièrement violente, alors qu'on peut parfois peut-être l'oublier aujourd'hui en France, pensant qu'elle a été peut-être plus violente en Afrique ou dans les pays maghrébins, que non, elle a été aussi violente là-bas, qu'il faut le rappeler?
Je pense qu'il était plus certainement au Cambodge moins de violence qu'au Vietnam, certainement, hein. Mais ça empêche, il y a un village comme ça, on appelle toujours le village des maudits, où les paysans effectivement se rebellaient contre les agents qui viennent collecter des impôts.
Mais c'est un épisode du film.
Ouais, voilà. Et bon, il y a quand on va prendre quelque chose aux personnes qui ont besoin pour vivre, on crée certaines confrontations, certaines violences.
Et cette violence, elle est dans le paysage, elle est dans l'histoire du pays, et elle est dans votre film aussi à l'intérieur même de la famille. C'est ce que vous disiez, l'intime rejoint la grande histoire avec H. Il y a notamment cette scène épouvantable, presque, quand Suzanne rencontre le Chinois, l'homme qui va lui offrir un diamant, et sa mère, Madame Donadieu, la pousse dans les bras de ce Chinois parce que elle espère pouvoir enfin sortir de la misère. Et il y a une scène notamment chez Barthes, qui est le bar où se retrouvent tous les colons.
Oh, c'est merde, hein.
Vous n'arrêterez jamais de vous plaindre.
On va commander une autre bouteille de champagne.
Et toi, Suzanne, tu peux aller m'éclaircir un peu ce que j'avais. C'est pas la bouche d'une fille honnête que j'ai là, pour le moment.
Ça lui ressemble.
préférerais une pute avec un cul de poule à la place de la bouche.
Ça va, t'es pas obligé d'être aussi vulgaire. On a parlé de vous avec Joseph. On voit très bien où vous voulez en venir. Ça tombe personne.
Ouais. Je vous disais que c'était pas très sain d'avoir envie de coucher avec ma sœur.
J'éprouve pour votre fille, madame, un sentiment très profond.
Oh, c'est possible. Ce qui compte pour nous, c'est que vous l'épousiez.
On se décide pas à épouser quelqu'un en 15 jours.
C'est vrai, chez les gens russes, ça peut attendre 2 ans et plus. Mais pas chez nous.
Puis c'est ça ou rien. C'est pas qu'on l'empêche de coucher avec qui elle veut. Hein. Vous, si vous voulez coucher avec elle, faut que vous l'épousiez. C'est notre façon à nous de vous dire merde.
Extrait d'un barrage contre le Pacifique d'après le roman de Marguerite Duras. Est-ce que la question de la fidélité, Ritipane, s'est posée pour vous, la fidélité au roman? Parce que vous êtes de l'autre côté, vous êtes l'ancien colonisé d'une certaine façon qui raconte cette histoire.
Je crois que Madame Duras elle-même est ancienne colonisée, d'une certaine manière. Je crois que Duras a dit elle-même qu'elle n'aime pas qu'on illustre son livre. Elle aime bien qu'on garde plutôt un ton. Moi, j'ai lu cette phrase après l'avoir adaptée. Et je crois qu'elle a raison. J'ai fait garder qu'un ton. C'est pour ça que si vous me demandez quelle page elle écrit quoi, je ne saurais pas vous dire parce que je l'ai pris une fois, puis suis parti avec. Mais ce qui est important, c'est, je pense qu'aller vers autre chose en adaptation, c'est ou vers autre chose toujours. Et il ne faut pas qu'on retourne comme toujours sur le je sais pas. Moi, je crois qu'il faut être libre comme ce que Duras l'était elle-même.
Elle fut cinéaste et votre film ne ressemble pas du tout au sien non plus. Hein.
Ah oui, moi, vous savez, quand j'ai décidé de faire le barrage, j'ai pas vu le film de Duras, ni j'ai pas vu le film de Clément, qui était déjà adapté du même roman. J'ai refusé de voir tout ça. Je voulais juste partir avec moi et
votre histoire, en fait.
Voilà. Je vois, c'est la meilleure manière, c'est de, une fois que c'est écrit, vous appropriez l'histoire dans le cœur, quoi. Puis vous partez comme ça.
Le film est sorti au Cambodge.
Le film, j'espère qu'on va le présenter aux Cambodgiens, au Cambodge au mois de février ou mars.
Mais où?
D'abord à Phnom Penh déjà. D'abord, il faut que le film passe la censure et tout ça déjà. Puis après, on verra.
Mais je dis où parce qu'en fait, il n'y a pas de salle de cinéma à Phnom Penh. Il n'y a que votre centre de ressources.
Il y a les salles de cinéma parfois, mais qui n'a pas de projecteur ou ils projettent en vidéo, de moins en moins maintenant. Et puis, au pire des pires, on va projeter au... Tout ça, on va le faire au centre de ressources Bopana aussi. Mais on n'a qu'une capacité de 30-40 places.
Hein. Oui, le centre de ressources qui est le lieu que vous avez créé il y a 2 ans maintenant, qui est en fait un centre qui est censé retrouver justement la mémoire et les images d'archives de ce pays, le Cambodge.
Ouais, en fait, nous, avec un groupe d'amis, nous souhaitons développer une idée de droit d'accès à la mémoire. Et maintenant, on a fait au Cambodge, ça marche bien. On a collecté toutes les images, le son sur le pays, les photos aussi, pour mettre au Centre Bopana, c'est possible maintenant. Et on est en train de travailler avec le Burkina Faso. Ça veut dire on commence une coopération sud-sud. On va essayer de faire du sud-sud.
Mais il y a du commun entre le Burkinabé et le Cambodgien?
Certainement quelque chose en commun, parce qu'en Cambodgien comme en Burkinabé, quand ils veulent voir ces images, ils n'en ont pas. Il faut qu'il aille chercher en France ou ailleurs, je sais pas où. Mais accès gratuit, immédiat, si vous êtes lycéen ou étudiant, si vous voulez faire une mémoire sur l'image coloniale, tout ça, ou même maintenant, vous en avez pas. Donc ce qui est important, c'est que nous puissions aussi regarder nos propres images. Et puis, vous savez, c'est pas seulement ce qui est fort dans la mémoire, c'est que... À partir de cette base qui est d'images archives, ça vous donne toujours envie de créer d'autres. C'est comme le centre Bopana, le centre d'archives, c'est comme une maman qui raconte une histoire, quoi. À ses enfants, quoi.
Donc des archives viennent ensuite la fiction, ce qui est un peu votre chemin, d'une certaine façon, Ritipane. Donc vous donnez envie aux gens du Cambodge, du Burkina, finalement, d'avoir accès au cinéma.
C'est pas seulement envie, je crois que c'est un droit. Et c'est un droit qu'on devrait en juin inscrire à l'ONU, hein, un droit d'accès à la mémoire.
Merci Ritipane. Un barrage contre le Pacifique, votre film sort sur les écrans français ce mercredi. Et c'est le ton du Duras et un peu plus. Duras et Ritipane. C'est assez formidable. Quant au roman de Marguerite Duras, qui est absolument génial pour le coup, il est publié en folio. Sur RFI, c'est l'heure du